vos manettes. Quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Bien le bonsoir, bienvenue sur Neptune FM pour cette nouvelle émission de Cordialement Geek. Cette semaine, je vais vous parler du jeu Stellar Blade. On parlera ensuite des tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière, du new jeu vidéo concernant le jeu Ghost of Tsushima. On parlera ensuite technologie avec des chercheurs qui ont créé des circuits imprimés recyclables à l'infini. Et on finira avec les deux petites sorties jeux vidéo de la semaine. On commence donc avec le test de Stellar Blade. Donc c'est un jeu vidéo d'action RPG coréen qui est jouable en solo. Il a été réalisé par Kim Yung-tae, le directeur du jeu, et Dong-gi Lee, le directeur technique. Produit par Lee Jo-wan, développé par le studio Shift Up Corporation et publié par l'éditeur Sony Interactive Entertainment. Donc il est sorti le 26 avril 2024 exclusivement sur PlayStation 5. Sorte de mix entre Bayonetta et Nier, Stellar Blade vous proposera des combats nerveux et effrénés, tandis que vous évoluerez dans des décors étranges rappelant l'œuvre de Yoko Taro. Le jeu est classé PEGI 18 et il obtient une note de 17 sur 20 de la part de jeuxvideo.com pour une note globale de 82 sur 100 sur Metacritic. Donc voilà maintenant 5 longues années que le studio sud-coréen Shift Up travaille activement à son premier jeu vidéo sur une console de salon, avec le soutien de Sony et PlayStation. Après la conquête des supports mobiles avec comme étendard Goddess of Victory Nikkei, les équipes de Shift Up ont donc poussé les curseurs à fond pour faire craquer les joueurs PS5. Après une trentaine d'heures passées en compagnie d'Eve, guerrière miséricordieuse envoyée sur Terre pour sauver l'humanité, on sait enfin si le titre de Shift Up peut s'asseoir à la table des licences précédemment mentionnées et s'il est capable de les regarder droit dans les yeux. Donc il est vrai que Stellar Blade leur doit énormément, mais c'est cette même convergence qui a permis aux équipes de créer une expérience unique. Et pour commencer, cette identité est d'abord visuelle. Donc à noter que Stellar Blade propose un mode de performance équilibré à 50-60 FPS 4K upscale, ainsi que deux autres modes qui mettent soit la focale sur les graphismes, donc résolution à 30 FPS et 4K natif, soit l'accent sur les performances, donc performance à 60 FPS et 1440p. D'un point de vue technique, le travail de Shift Up est à saluer puisqu'on ne ressent quasiment jamais de baisse de performance ni de détérioration graphique. Donc forcément, les jeux vidéo next-gen, les titres qui sortent sur les machines actuelles, d'autant plus quand il s'agit d'une exclusivité, sont attendus au tournant. De son côté, Stellar Blade n'y échappe pas, à tel point que la version de démonstration sortie sur PS5 il y a quelques semaines était passée à la moulinette des experts de Digital Foundry. Et ce qui ressortait de cette analyse, c'est que l'on tenait peut-être là l'un des jeux les plus soignés en termes de graphisme et de performance. Et on est assez époustouflé de constater que le titre de Shift Up est en effet à la hauteur de ses promesses. Premièrement, on remarque que la modélisation des personnages, supervisée par les talents de Kim Yung-tae, est sublimée par la qualité des modes graphiques du jeu. Globalement, le travail effectué par l'équipe en charge du character design est l'une des forces visuelles de Stellar Blade. On peut dire ce que l'on veut, notamment à propos de son héroïne, mais cette composante permet au titre de faire la différence, tant à l'aide de ses protagonistes que de son bestiaire, volontairement effrayé et cauchemardesque, issu de l'imaginaire de Ichol Jang. Pour autant, les équipes de Shift Up n'ont pas seulement mis la focale sur l'aspect graphique de leurs personnages, du côté des décors, il y a également de quoi être ébloui. L'une des raisons, c'est de constater que le contexte apocalyptique n'a pas été prétexte à produire une pagaille de débris et de tôles, sans aucune cohérence ni souci du détail. On n'a pas vraiment à souligner de textures peu reluisantes ou de détails qui apparaissent un peu par magie. Énième preuve du soin accordé à la gestation du projet, la distance d'affichage. Dans Stellar Blade, on a le plaisir de découvrir et de contempler un monde en plein cataclysme, ou du moins les vestiges d'une civilisation après la catastrophe. Là où on peut tiquer, c'est devant la direction artistique qui souffle le chaud et le froid. Capable de très belles choses, Stellar Blade a tendance à s'appuyer sur un trop-plein de paysages désertiques. Or, les mondes post-apocalyptiques ont dernièrement essayé de renouveler leur vision d'un monde qui a connu le désastre, et on aurait aimé que Stellar Blade suive cette voie. Donc on s'entend, le résultat est beau, mais ce côté standard peu aidé par un level design scolaire altère le plaisir visuel offert par Stellar Blade. Pour se consoler, on retiendra l'un des ultimes passages du jeu en altitude, où la vision du soleil au loin et de la terre en contrebas fait décrocher la mâchoire. Donc une fois que l'on a posé ce premier constat, que reste-t-il de Stellar Blade? Un ersatz de Nier, Sekiro et consorts, un titre paralysé par ses nombreuses influences. Étonnamment, ce n'est absolument pas le verdict que l'on peut poser sur la création du studio Shift Up. Stellar Blade ne régurgite pas ce qu'il a pu puiser à droite et à gauche, il parvient à mettre en place une hybridation pour le moins satisfaisante. Celle-ci est même étonnante par moments. Sans que l'on s'y attende vraiment, le jeu nous coupe de nos repères, acquis de manière plus ou moins intense, et rebat ses propres cartes, celles du jeu d'action nerveux et exigeant, pour arborer une autre facette de cette hybridation, à savoir celle qui lorgne du côté du jeu vidéo de tir à la troisième personne, au fort accent de survival horror. On pourrait même dire qu'il y a un petit côté Dead Space de temps à autre, donc si vous ne pensiez ne pas avoir à encaisser des jumpscares, eh bien vous n'allez pas être déçu. Néanmoins, s'il fallait mettre Stellar Blade dans une case, ce serait dans celle des Souls-like, même si on préférerait le découper tel un Aitiba, pour le répartir dans telle ou telle catégorie. Toujours est-il que dans sa construction, Stellar Blade s'aborde comme un Dark Souls. Eve dispose d'une quantité définie de soins, elle engrange de l'expérience en tuant des ennemis, débloque des raccourcis, se repose à un camp de ravitaillement, etc. Jusque dans les composantes de jeux de rôle, on retrouve cette filiation, même si le choix est plus limité qu'un titre de From Software. Ici, c'est l'épée de Eve qui fait à la fois office d'arme et de bouclier. Là où il y a plus de possibilités, c'est du côté des exospines et des modules que l'on peut leur greffer. Donc je vous arrête tout de suite, c'est dans ces éléments que Eve va chercher toute sa puissance, et non dans les multiples nano-combinaisons à fabriquer grâce à des plans disséminés à travers les différents niveaux. Ces tenues sont donc avant tout présentes pour que vous combattiez avec efficacité et style. Ce qui est le plus important pour rouler sur vos adversaires, c'est de construire votre propre façon de jouer via ces exospines et ces modules d'amélioration. Pour être sûr d'avoir suffisamment de variété et d'approche, les développeurs ont conféré à chaque exospine et chaque module une caractéristique spécifique. Parfois, ces équipements augmentent vos dégâts si vous réussissez un enchaînement jusqu'au bout, remplissent plus rapidement votre jauge d'énergie bêta qui sert à déployer l'une des quatre compétences, accroissent votre potentiel de coup critique, décuplent votre résistance aux dégâts ou facilitent encore l'exécution des esquives. Les exemples sont légion et il faudra bien étudier la question pour maîtriser le gameplay. Voilà, on va faire une petite pause dans ce test avec la chanson Atelier extraite de l'OST du jeu Stellar Blade et on se retrouve juste après. Donc c'était Atelier, une chanson extraite de l'OST du jeu Stellar Blade. On continue donc avec la deuxième partie de ce test. Et donc on va résumer. Pour s'améliorer, le jeu nous demande de fournir à Eve une exospine de qualité et de l'agrémenter de modules. Donc oui, mais il faut surtout apprendre à maîtriser le système de jeu sur le bout des doigts, notamment pour la partie réservée au combat. Je le souligne à nouveau, Eve est rapide, mais elle est plus lourde dans ses déplacements qu'une Cereza dans Bayonetta ou une 2B dans Nier Automata. En fin de compte, le gameplay des affrontements, certainement la plus grande force du jeu, mise sur un entre-deux qui permet d'une part de profiter d'une agilité hors norme et de l'autre d'une capacité de parade à toute épreuve. Côté souplesse, ça passe par une touche d'esquive qui, déclenchée au bon moment, permet à Eve de ralentir l'action, puis de contre-attaquer furieusement. Le mieux reste toutefois de déclencher, selon l'attaque choisie par l'ennemi, une éclipse ou une répulsion. En l'occurrence, la première riposte permet à Eve de se glisser quasi instantanément dans le dos de l'adversaire et de le désorienter, tandis que la seconde consiste à effectuer un salto arrière qui sonne l'ennemi tout en exposant son point faible. A l'inverse, lorsque l'on se prépare à encaisser les coups frontaux et à dégainer des parades parfaites et millimétrées, le gameplay de Stellar Blade en devient encore plus savoureux. Le titre de Shift Up est comparable à Sekiro sur un point bien précis, la posture et l'équilibre. Ici, réussir une parade parfaite, c'est le gage d'entamer la jauge d'équilibre de son adversaire qui, une fois vidée, ouvre la porte à un finish move capable de retirer une jolie portion de sa santé, allant jusqu'à le tuer dans certains cas. Donc je vous préviens tout de suite, Stellar Blade ne vous fera pas de cadeau pour ce qui est des parades, y compris en mode de difficulté normale. Il faudra donc bien travailler le sujet, sous peine de ne pas faire long feu. Malgré tout, vous avez de quoi encaisser puisque Eve dispose d'une jauge de bouclier, vous sauvant la mise sur quelques coups avant de vous exposer complètement. Après, pour ceux qui veulent monter le challenge d'un cran supplémentaire, il y a la possibilité d'opter pour la nano-combinaison seconde peau, qui retire justement cet attribut défensif. Enfin, dernier atout dans la manche de Eve, en plus des compétences bêta et des autres aptitudes de combat que je vous laisse le plaisir de découvrir en jeu, on a le drone. Donc, grâce à Lily, le drone se transforme en un véritable support pour profiter d'un gameplay à distance lors des combats. À la manière d'un jeu de tir, on a une gâchette pour la viser et l'autre pour déclencher l'une des munitions au choix. Dans le lot, on retrouve des balles simples mais aussi des cartouches de chevrotine, des missiles guidés et des cellules à charger qui balancent un puissant rayon laser. Encore une fois, Stellar Blade joue habilement la carte de l'hybridation et le système de combat conjugue intelligemment les combos au corps à corps et les joutes à l'arme à feu. Cerise sur le gâteau de cet arsenal, Eve peut aussi porter quelques consommables à utiliser en combat, à l'image des grenades et des mines. Bien que les aptitudes du drone ne se débloquent qu'après quelques heures, Eve dispose déjà d'une belle palette de compétences offensives et défensives, mais comme toute héroïne qui se respecte, il lui faut une vraie montée en puissance. Pour cela, les développeurs de Shift Up ont opté pour un système d'arbre de talent, donc 3 au départ et 5 à l'arrivée. À la manière d'un Souls, Eve récupère des points d'expérience qui deviennent des points de compétences à répartir dans les embranchements de chaque arbre et non dans des caractéristiques précises. Grâce à ça, Stellar Blade met en place une courbe de progression grisante dans laquelle on savoure le potentiel décuplé de l'héroïne. À côté de ça, le jeu prend le temps de récompenser vos faits d'armes ainsi que votre curiosité. D'un côté, vous pouvez augmenter le niveau de puissance de votre arme et de l'autre, réunir des composants pour accroître le nombre d'emplacements de certains items, équipements et consommables. Donc à ce propos, l'un des meilleurs moyens d'alimenter cette courbe de progression, c'est à l'aide de la partie en monde semi-ouvert et des contenus annexes qui y sont liés, à l'image des missions et requêtes confiées par les habitants de la ville de Xion ou les Pékins qui se sont égarés dans les zones semi-ouvertes comme les Terres Désolées ou le Grand Désert. À travers ces zones semi-ouvertes, Stellar Blade casse le côté dirigiste de son aventure, mais c'est un choix à double tranchant. En effet, si cela permet d'étoffer l'univers et l'immersion, cette idée lui joue quelque peu des tours. Ce système de quête souffle un peu le chaud et le froid, tant il a tendance à nous offrir des missions parfois peu intéressantes parmi quelques séquences dotées de jolies idées, thématiques et bonus qui étoffent l'expérience. Ce qui est d'autant plus frustrant, c'est qu'il est plutôt judicieux de s'impliquer dans cette partie du jeu pour ne pas se retrouver aux fraises lors de certaines séquences. Dans l'ensemble, la difficulté est bien gérée, mais le rush final peut paraître déconcertant si on n'a pas pris le soin de développer correctement son héroïne. Malgré tout, je vous conseille de ne pas dénigrer cet aspect du jeu, bien qu'ayant quelques défauts, dont la redondance d'un cadre désertique et le level design qui manque de folie. Je termine là-dessus, mais si vous appréciez de collecter tout un tas d'éléments à droite et à gauche pour approfondir votre connaissance du lore ou juste pour assouvir votre soif de complétion, Stellar Blade devrait vous combler de joie. En effet, les développeurs de Shift Up ont eu la main lourde sur les collectibles et vous devriez passer énormément de temps à les rassembler si vous avez pour objectif de décrocher le platine. Coffrets spéciaux et mots de passe, composants d'équipement et autres ressources importantes, pelletés de documents, puces mémoire à foison, collections de canettes et bien d'autres choses. Pas étonnant que la durée de vie excède les 50 heures de jeu pour atteindre le 100%, même si on ressent un trop-plein d'éléments qui nous fait penser à un remplissage à outrance de la part de Stellar Blade. Ceci étant dit, libre à vous de choisir de tout compléter ou non, mais je préfère vous mettre en garde, la difficulté de l'aventure monte clairement d'un cran lors du grand final, donc n'hésitez pas à prendre le temps d'explorer, ne serait-ce que pour renforcer la santé et l'énergie bêta de l'héroïne, et développer suffisamment vos exospines pour vous adapter plus facilement aux situations. Qui plus est, le système de mission se montre très généreux dans ses récompenses, alors il faut en profiter, ce sera le meilleur moyen de profiter du périple d'Eve à fond. Avant de rendre la conclusion finale, il est de bon ton de vous informer sur ce qu'il se passe à la fin du jeu. Donc non, je ne vais pas vous parler de l'histoire, mais de ce qu'il se passe à la fin des crédits. Donc depuis le 25 avril, une mise à jour a signé l'ajout d'un mode New Game Plus. Par conséquent, à la fin de Stellar Blade, se débloque un New Game Plus et un mode de difficulté supplémentaire, donc en l'occurrence le mode difficile. Le mode New Game Plus conserve de très nombreuses choses, dont l'arsenal, l'argent, les objets, les enregistrements, les améliorations, les compétences et les PC, mais pas votre progression qui, elle, est réinitialisée. Donc si vous souhaitez faire le 100%, il faudra retraverser tout le jeu et explorer les endroits que vous avez délaissés ou les items que vous avez loupés. Donc pour résumer les points forts du jeu, on a une formule hybride très réussie, un gameplay vraiment jouissif, un large choix de style de jeu, un univers captivant, une expérience visuelle et artistique des plus réussies, un final à la fois haletant et corsé et une bande-son entêtante qui sublime le tout. Pour les points faibles, on a un level design trop classique, un schéma de progression redondant, un monde semi-ouvert qui souffle le chaud et le froid et des phases de plateforme qui sont parfois crispantes. Voilà, on va pouvoir donc terminer ce test avec une autre chanson extraite de l'OST du jeu Stellar Blade, c'est Belial's Theme et on revient juste après. Donc c'était le thème de Belial, une chanson extraite de l'OST du jeu Stellar Blade. On va faire une petite pause publicité et on reviendra juste après pour les tops des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière, une news jeux vidéo, une news technologie et on finira avec les sorties de la semaine. À tout à l'heure.
À vos manettes, quittez la vie réelle pour plonger dans un monde de pixels. Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo avec Loli sur Neptune FM.
Rebonsoir, re-bienvenue sur Neptune FM pour la deuxième partie de l'émission Cordialement Geek. On va tout de suite commencer avec le top des ventes de jeux vidéo de la semaine dernière. Donc le top 5 qui fait aussi top Nintendo Switch. On a en 5ème place Super Mario Bros. Wonder sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En 4ème place, c'est Mario Kart 8 Deluxe sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En 3ème place, Princess Peach Showtime sur Nintendo Switch, un jeu de Nintendo. En 2ème place, c'est Top Spin 2K25 sur PS5, un jeu de 2K Games. Et en 1ère place, c'est Stellar Blade sur PS5, un jeu de Sony Interactive Entertainment. Donc en plus de Top Spin et de Stellar Blade, on a en 3ème position pour la PS5 Gran Turismo 7. Pour la Xbox Series, on a en 3ème place Sandland. En 2ème place, c'est Top Skin 2K25, l'édition Deluxe. Et en 1ère place, Top Spin 2K25, l'édition normale. Le top 3 pour la PS4, on a en 3ème place EA Sports FC 24. En 2ème place, Gran Turismo 7. Et en 1ère place, Top Spin 2K25. Le top 3 pour la Xbox One, on a en 3ème place, oui, Red Dead Redemption 2. En 2ème place, Grand Theft Auto 5, l'édition Premium. Et en 1ère place, Hogwarts Legacy. Le dernier top, c'est le top 3 PC, avec en 3ème place, X-Plane 12. En 2ème place, c'est Fallout, l'anthologie spéciale. Et en 1ère place, Minecraft Java and Bedrock. On passe maintenant à la news jeux vidéo. Donc après la polémique qui a suivi les récentes annonces de Sony concernant Helldivers 2, un autre jeu populaire nécessitera une connexion au PlayStation Network pour accéder à son mode en ligne sur PC. Donc si vous n'avez pas suivi, il y a quelques jours, Sony annonçait aux joueurs PC d'Helldivers 2 que ces derniers devraient bientôt avoir besoin d'une connexion obligatoire au PlayStation Network pour profiter du titre en ligne. Suite à cette annonce, les joueurs ont massivement boycotté le jeu, notamment en bombardant le titre et son prédécesseur de mauvaises critiques. En réponse, Sony et Arrowhead, le développeur du jeu, sont revenus sur la déclaration en la nullifiant, donnant raison donc à la communauté. Mais alors que tout semblait repartir sur des bases saines, c'est Ghost of Tsushima, une autre exclusivité, qui s'apprête à emprunter un chemin similaire. Originellement cantonné aux machines de Sony, le titre est prévu pour arriver sur PC à partir du 16 mai, et son développeur Sucker Punch n'a pas manqué d'en faire la promotion. C'est sous un des postes du studio qu'un internaute a déclaré avoir annulé sa précommande en réaction à la politique de Sony. En réponse à cela, Sucker Punch a précisé à celui-ci que même si un compte PSN était nécessaire pour jouer au mode multijoueur Légende, la campagne solo resterait quant à elle tout à fait accessible sans connexion. Donc si l'échange a eu lieu moins de 2 jours avant le retrait de Sony de la question concernant Helldivers 2, rien n'est très clair pour le moment concernant Ghost of Tsushima. De fait, on ne sait toujours pas si celui-ci emboîtera le pas du jeu d'Arrowhead ou si Sony exigera une connexion dès le lancement du titre sur PC. La polémique autour de Helldivers découlait du fait que la décision ait été prise après coup, mais rien n'indique que le jeu de samouraï subira le même sort. Bien que l'exigence de Sony à posséder un compte PSN n'impacte pas réellement la majorité des joueurs européens ou américains, celle-ci est largement plus dommageable pour certaines régions du monde qui ne peuvent pas créer de compte pour des services en ligne. En effet, qu'il s'agisse de Helldivers 2 ou Ghost of Tsushima, les titres sont bel et bien distribués partout dans le monde. L'obligation d'un compte PlayStation Network ne pourrait alors être remplie qu'au sein des 69 pays où le service est disponible à l'heure actuelle. Donc la planète comptant près de 195 pays, la majorité du monde pourrait être privée du mode en ligne du jeu de samouraï. Donc sans davantage de réponses de la part de Sucker Punch et ou de Sony pour le moment, les joueurs sont donc dans l'expectative. On passe maintenant à la news technologie. Donc les circuits imprimés PCB représentent une part importante des déchets électroniques qui remplissent nos décharges. Afin de résoudre ce problème, des scientifiques en ont créé un pouvant être transformé en une gelée réutilisable à la fin de son cycle de vie. Donc les circuits électroniques sont généralement constitués d'une couche de fibres de verre non conductrices, servant de support aux pièces électroniques telles que les puces, les résistances et les transformateurs. Ces constituants étant notoirement difficiles à séparer, la récupération des composants électroniques en vue de la réutilisation demande beaucoup de temps et d'efforts. L'une des approches actuellement utilisées consiste à brûler les PCB, mais ce processus se révèle peu respectueux de l'environnement et a tendance à endommager les composants. Donc c'est là qu'intervient le nouveau circuit imprimé, développé par des scientifiques de l'Université de Washington. Il troque la résine époxy pour un polymère vitrimère. Dans le cadre d'une utilisation classique, ce vitrimère reste solide, rigide et non conducteur, comme son équivalent traditionnel. À la fin de son cycle de vie, il peut être recyclé en étant immergé dans un solvant organique, présentant un point d'ébullition relativement bas. Lorsque celui-ci est atteint, le vitrimère gonfle et devient gélatineux, ce qui permet de récupérer facilement les fibres de verre et les composants électroniques en bon état. Des expériences complémentaires en laboratoire ont également montré que 98% du vitrimère lui-même pouvait être réutilisé, ainsi que 91% du solvant. Donc ces PCB plus verts présentent également l'avantage de pouvoir être produits dans les installations existantes. Selon les chercheurs, leur utilisation à grande échelle permettrait de réduire de 48% les émissions de gaz à effet de serre et de 81% les émissions cancérigènes liées à leur traitement. Donc je cite, « Les PCB représentent une part assez importante de la masse et du volume des déchets électroniques », rappelle Vikram Iyer, co-auteur de la nouvelle étude publiée dans la revue Nature Sustainability. Notre nouvelle formulation présente des propriétés électroniques comparables à celles des PCB classiques et elle peut être recyclée à plusieurs reprises. Voilà, on va pouvoir maintenant finir l'émission avec les deux petites sorties jeux vidéo de la semaine. Donc on en aura une lundi 13 mai avec Homeworld 3 sur PC, PS4 et Xbox One. Et la dernière sortie de la semaine, ça sera pour mardi 14 mai avec Rogue Prince of Persia qui sera disponible sur PC.
Cordialement Geek, la chronique high-tech et jeux vidéo sur Neptune FM.
Donc voilà, c'est ce qui termine l'émission de Cordialement Geek de cette semaine. Je rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook pour l'émission Cordialement Geek, mais aussi pour mon autre émission Asian Bubble que vous pourrez retrouver lundi prochain de 21h à 22h sur Neptune. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et à tchéfette.
Retrouvez Cordialement Geek chaque vendredi à 18h30 avec Loli sur Neptune FM. À retrouver en podcast sur neptunefm.com.